Chapitre 1er. Il en faut du courage pour se faire enterrer par un temps pareil, maugré l'interminable bonhomme qui franchit à pas pesants le porche du cimetière. Main dans les poches, regard sur ses chaussures, il semble ne prêter attention à quiconque, préoccupé d'en finir au plus vite avec cette corvée que les morts imposent aux vivants pour partir sans regret. Sa large carrure bourlingue doucement dans la foule. Elle frôle au passage, sans jamais les heurter, les manteaux sombres que l'hiver avait jetés sur d'autres épaules. Dans son dos, les chuchotements vont bon train, mais l'oreille paresseuse n'en retient rien qui mérite son attention. Dans un grincement, le corbillard s'arrête enfin, derrière les chevaux carapassonnés de drap noir, derrière le cocher en bicorne et le cercueil recouvert d'un riche linceul brodé aux couleurs des Adlers, le cortège du défunt foisonne de houppelandes et de lourdes fourrures. Si l'on n'y remarque aucun des puissants personnages qui font l'opinion à Zurich comme à Lausanne, à maints détails qui sont autant de signes pour l'œil professionnel, le colonel Hubert note qu'on est venu de toute la Confédération et même de l'Allemagne voisine rendre les derniers hommages à Gottfried von Adler. Le prêtre a égrené les ultimes prières. Il a brandi l'encensoir, embaumant de ses effluves âcres les vivants et le mort, avant de les bénir tous à coups d'aspersoir. Une file qui anesthésie le froid, plus que le chagrin, vient maintenant de se former. Georg Hubert s'y glisse. Le goupillon à la main, chacun y va de son signe de croix, au-dessus du cercueil hissé sur trois tréteaux. Lorsqu'arrive son tour, l'officier à la retraite salue le vieil aristocrate croisé quelques mois plus tôt. Le mystère de cette rencontre ne sera donc pas élucidé, songe-t-il avec humeur. Cette idée le dérange, au point d'en oublier toute civilité, puisqu'il repose l'aspersoir dans son urne de cuivre, sans se soucier de le tendre à l'élégante jeune femme qui attend derrière. Plus que la mort, présente ce matin-là, ou la bise glaciale qui lui griffe les joues, c'est l'atteinte portée à son instinct qui prête un visage morose à l'ancien chef des renseignements helvètes. Retiré du service depuis bientôt 10 ans, le vieux ligné se félicite de n'avoir rien perdu de son flair. Or, le noble banquier qu'on enterre aujourd'hui avait éveillé en lui une curiosité toute professionnelle. Et voilà qui emporte dans sa tombe les secrets, pas seulement bancaires, que Georg Hubert le soupçonnait de détenir. De quoi justifier la soudaine distraction qui lui ressemble peu. S'écartant du petit groupe des proches du défunt, le grand bonhomme a presque gagné le portail du cimetière lorsque des mots pressants se faufilent jusqu'à lui. « Colonel Hubert ?» La voix est basse, comme accoutumée à une grande discrétion. Un soupçon d'interrogation la module. Un regard lancé dans sa direction renseigne l'interpellé sur son propriétaire. Tirebouchonné dans une redingote passée, au parement de velours gris, un petit homme sans âge vient de le rattraper. « À qui ai-je l'honneur ?» s'enquiert le maître espion. « Maître Desrameaux, notaire, mon nom ne vous dira rien. M'autorisez-vous néanmoins à vous retenir un instant ?» Si, en bon militaire, Hubert voue une robuste horreur à tout imprévu, il doit à son séjour à la tête de la police fédérale une curiosité que l'homme à la redingote, avec ce regard étrangement immobile dans sa mimique courtoise, vient de mettre en alerte. L'inconnu aurait-il la réponse aux questions qu'il se posait à l'instant? Dans le café de briques rouges qui jouxte le cimetière, les deux hommes se sont attablés. Réflexe d'une vie entière dédiée à l'espionnage, Georg Hubert a choisi d'autorité une table dans le fond, loin des oreilles indiscrètes. « Permettez-moi de me présenter, colonel, » commence le petit homme, à peine servi les deux bières qu'ils ont commandées. « Comme mon nom l'indique, je suis de père genevois. J'appartiens à cette espèce peu commune de francophones qui maîtrise plusieurs langues. Malgré cet avantage, je ne suis pas de ces notaires internationaux, nantis d'associés et de bureaux à Paris, à Londres et à Berlin. Je suis modestement notaire à Kretzingen, charmante localité balnéaire sur la rive sud du lac de Constance. » Même s'il n'en montre rien, Hubert a dressé l'oreille. Le fief des Adler n'est-il pas situé près du lac de Constance? J'y ai succédé à mon oncle Günther, le frère de ma mère, lui-même héritier de son père, et ainsi de suite en remontant jusqu'en 1800. 1800, situe aussitôt le chef de la police, pour qui toute compréhension des faits passe par une connaissance aiguë des circonstances qui leur font écrin. L'époque où l'éphémère république helvétique proclamée par le général Brune se voyait invitée à adopter les institutions françaises, notariat public inclus. Mais je ne vous ai pas abordé d'aussi cavalière façon pour vous conter l'histoire des Eisner, nom de jeune fille de ma mère, ni les prodiges d'habileté qu'il m'a fallu déployer pour que la clientèle la plus conservatrice du pays le plus conservateur du monde accepte de confier ses affaires et ses secrets de famille à un des rameaux, horrible patronyme roman. Je vais donc en venir à ce qui nous concerne. Si Hubert ressent la moindre impatience, il n'en manifeste rien. J'espérais bien que vous assisteriez aux funérailles de Gottfried von Adler, reprend le notaire. Il m'a semblé que ce serait la meilleure occasion de vous rencontrer. Puis il marque une pause que le vieux Briscard se garde bien de rompre. Le défunt, en effet, a beaucoup insisté pour que je le fasse discrètement, j'oserais même dire secrètement. Tandis que s'efface l'écho des paroles que, sans se l'avouer, il espérait entendre, Hubert ne bronche pas. Vous connaissez bien le comte von Adler, sans doute. Se risque le tabellion, qui, devant le silence obstiné de son vis-à-vis, se résigne à poursuivre. Je ne sais ni à savoir d'où vous pouviez connaître feu notre client, mais une chose est certaine, il tenait en grand respect l'homme que vous êtes et le professionnel que vous fûtes, colonel. À peine si le compliment arrache un quart de sourire à son interlocuteur. Je ne suis qu'un notaire de campagne, mais, comme tout le monde, je connais un peu votre carrière, et je sais l'estime que vous portez le colonel Masson. Il n'est pas pour moi référence plus solide. Le regard d'Hubert, dont la neutralité avait jusque-là de quoi glacer n'importe quel opportun, gagne en intensité. Le notaire fait mine de n'avoir rien remarqué. Je n'ai donc été qu'à demi étonné lorsque, en janvier dernier, notre client m'a confié l'étrange mission dont je m'acquitte à l'instant. C'était un dimanche soir. Le comte von Adler m'avait fait appeler au château, toute affaire cessante. Dans la bibliothèque où il me reçut, notre client me désigna, sans attendre, une valise cadenassée. Après ma mort, et aussi vite qu'il vous sera possible, vous remettrez cette valise au colonel Hubert. À lui seul, j'insiste, fut son unique recommandation. À tout hasard, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, j'ai demandé ce qu'il convenait de faire au cas où vous viendriez à disparaître avant lui. Et alors? Depuis le début de l'entretien, c'est la première question que pose le militaire. La réponse jaillit sans l'ombre d'une hésitation. Le comte a confirmé qu'en ce cas, l'affaire serait réglée. Toute intervention de ma part deviendrait inutile. C'est dire si vous destinez cette valise, colonel, et à vous seul. Entre les deux hommes, un silence s'installe. Méditatif chez l'un, différent chez l'autre. Avez-vous une idée du contenu de cette mystérieuse valise, lâche enfin le maître espion? Aucune. Rien n'est venu modifier, ni le ton, ni le visage de l'homme de loi. Pourtant, Hubert en est sûr. Pour la première fois depuis qu'il converse, le tabellion lui ment. La seule question qui se pose est, puisque mensonge il y a, de quelle nature est-il, donc de quelle importance? Vous savez, colonel, enchaîne le petit homme comme s'il avait saisi l'interrogation muette, un notaire ne le confidant que de qui veut bien se confier. À la différence du prêtre qui questionne, il place son honneur dans une discrétion totale. Vous devez bien avoir une petite idée de ce contenu tout de même, ou au moins de la raison pour laquelle von Adler me le destinait. Aucune idée, colonel, des suppositions tout au plus. Suppositions nées de la fréquentation régulière du défunt, je suppose. Vous savez, même si je me targue d'avoir mérité et gagné la confiance du comte avec les années, celui-ci n'était pas homme à se répandre en confidence. Cependant, nous étions tous deux membres d'un même Rotary, et nous nous y retrouvions presque chaque semaine. L'information est précieuse, excite l'image incolore du tabellion aux ordres de son banquier de clients, place la figure autrement informé du camarade de club avec qui l'on traite d'égal à égal. Si ma mémoire est bonne, développe le camarade, Gottfried a succédé à son père à la tête de la banque, Adler, vers 1925. Il est tentant d'imaginer qu'au cours de sa carrière, il a été amené à couvrir toutes sortes de transactions, des plus secrètes aux plus complexes. De là, à supputer que certaines d'entre elles furent effectuées pour le compte de l'une ou l'autre des personnalités européennes qui ont fait l'histoire des années d'avant-guerre, Hubert se garde d'interrompre son interlocuteur, soudain devenu prolixe. Dans cet ordre d'idées, qui sait si Gottfried n'aurait pas conservé certains documents particulièrement originaux? Poursuit le Rotarien en insistant sur ce dernier mot. Les documents? Je suppute toujours qu'ils seraient de nature à intéresser le haut serviteur de l'État que vous fûtes et n'avez assurément nullement cessé d'être. Vous pensez donc que cette malle contient des documents? Questionne le haut serviteur. Et lui dans le commentaire. Évidemment, quoi d'autre? Je ne sais pas, de l'argent peut-être. D'une mimique amusée, le maître espion
atténue l'ironie contenue dans sa remarque. Des Rameaux, quant à lui, s'empresse de préciser. En dépit de son nom et de sa profession, Gottfried n'était pas immensément riche. Le joyau de sa fortune était ce splendide château de la Hofbräu qu'il avait acheté après-guerre, un Helvète germanophile et sympathisant nazi.
En effet, un homme qui avait fait fortune dans la fabrication des détonateurs, confirme le maître espion.
Inconscient sous provocation, poursuit-il dans un sourire badin, à moins que ce ne soit quelques attachements sentimentaux à Munich et à sa célèbre brasserie, von Adler s'est gardé de débaptiser sa Hofbräu House. S'il a lâché cette sonde pour son interlocuteur, Hubert évite d'ajouter qu'Adler avait fréquenté François Genoux, banquier si bien introduit dans le système national-socialiste qu'il fut l'exécuteur testamentaire d'Hitler et de Goebbels. Pas plus qu'il ne précise qu'on soupçonne le comte d'avoir entretenu, dans ses jeunes années, de coupables liens avec de hauts dignitaires nazis, voire avec le Führer lui-même. Sur la question des relations de certains de ses citoyens les plus haut placés avec l'Allemagne nazie, la police fédérale suisse a une version officielle que nul au pays du secret bancaire et de la bonne conscience ne s'aviserait de démentir, Hubert moins que tout autre. Parlait-il de ses années de jeunesse, s'enquiert le vieux limier auprès de son compagnon? Jamais, sauf une allusion, il y a 2 ou 3 ans, à l'occasion de l'intronisation d'un nouvel adhérent au club, dont le nom attestait l'ascendance juive. « Je crois bien que j'ai sauvé sa mère », a murmuré Gottfried. Sur le coup, je n'y avais pas prêté attention. Mais, quelques semaines plus tard, comme sortait le film sur les justes dont la presse faisait « grand cas » et dont le nom m'échappe, la liste de Schindler, tout juste. À l'époque donc, Gottfried avait émis un commentaire qui m'avait intrigué. Cette reconnaissance des services rendus par des non-juifs à la cause sioniste n'est qu'une mise en scène, avait-il ironisé. Nombre de ceux qui ont effectivement caché et sauvé des Israélites ont été oubliés, voire mis de côté sciemment par les autorités de Jérusalem. C'est juste anonyme, s'en manque bien d'ailleurs. Je dirais même qu'il s'en félicite, avait-il ajouté. J'en ai déduit qu'il se comptait lui-même parmi ces bienfaiteurs de l'ombre qui mettent un point d'honneur à refuser toute forme de reconnaissance. Pas si mal informé que cela, le notaire de campagne sourit par devers lui, l'espion à la retraite qui lâche d'un air dégagé. Voilà un indice rassurant. J'ai hâte désormais de récupérer cette fameuse valise. C'est au volant de la petite Renault bleue, dont il savoure le confort discret, que Georg Hubert, le lendemain matin, s'en revient de Kretzingen. Dans le coffre, à l'abri des regards, repose le chargement dont il a pris possession, quelques heures plus tôt, à l'étude du notaire. Porte en chêne massive soigneusement cirée, vaste hall dallée de marbre de Carrare, mobilier d'acajou, palissandre et angélique du faubourg Saint-Antoine, et jusqu'au vieil huissier cérémonieux qu'il avait introduit, tout dans l'éclair obscur carré religieux de la belle demeure bourgeoise où l'attendaient des Rameaux, respirait la prospérité. À l'étage privé, dans un petit salon où les tables Louis XV, aux pieds joliment tournés, rivalisaient d'élégance avec les bergères tapissées de brocart, l'attendait l'objet pour lequel il venait de faire tous ses kilomètres. Une valise de bois, aux serrures épaisses, dont les allures rustiques contrastaient bizarrement avec le guéridon d'Angélique où elle trônait. Entre les deux hommes, la remise du colis s'était faite très vite. Quelques mots échangés, l'assurance donnée par le notaire attentif que nul autre que lui, pas même épouse ou secrétaire, n'était au courant de ce legs peu courant. Celle, autrement plus vague, du vieux militaire de donner un jour peut-être de ses nouvelles. La valise, la mystérieuse valise de Gottfried von Adler, venait de changer de main. À l'heure qu'il est, tout en flirtant dangereusement avec les limitations de vitesse, Hubert renoue avec une joie terrible et familière. Celle qui, à ses yeux, a toujours justifié les vaines attentes, les angoisses et les désillusions d'une profession qui n'en manquait pas. Celle qui fouette les sangs comme une giclée de drogue, efface les doutes, redonne sa plénitude à la saveur du jour, l'excitation du traqueur à l'instant de la capture. Une jubilation si intense, si rare, que son grand corps perclus de fatigue oublie de lui rappeler la nuit sans sommeil qu'il vient de subir. Une nuit d'impatience et d'expectative où le même souvenir, mille fois revécu, se constellait de rêves où le plongeait chacune de ses rares somnolences. À l'instant encore, tandis que s'approche l'heure de vérité, celle où, dans la solitude de son appartement, il pourra ouvrir la valise scellée, les mêmes images visitent le vieil officier. C'était il y a 6 mois. 6 mois, 1 semaine et 3 jours, pour respecter l'exactitude dont s'est fait vertu l'homme des renseignements. Ce soir-là, le comte von Adler recevait en son château de la Hofbräu. Laquais en livrée, chandelles, orchestre de chambre, gentilhommes en frac et dames mûres parées de leurs plus beaux atours, cette soirée d'un autre âge semblait
tout droit sorti d'un film de Forman, avait songé à un Hubert, stupéfait de s'y voir convié. Seul de son espèce, au milieu des princes, ducs, marquis et autres barons d'Allemagne, d'Autriche ou de France, il était d'évidence l'unique roturier. À quoi devait-il l'honneur d'être accueilli au sein d'une si noble insistance? Que pouvait signifier cet égal insigne d'avoir été placé à table à la droite de la maîtresse de maison, dame de noble allure coiffée d'un discret diadème? La réponse, il n'en doutait pas, viendrait à son heure. Aussi, le maître espion s'était-il accordé le plaisir insolite de savourer, sans plus d'arrière-pensée, cette soirée, excisément désuète. Les convives s'exprimaient dans un français parfait, ce qui les rapprochait, semblait-il, et les faisait communier dans une même aisance faite de simplicité et de reconnaissance mutuelle, c'était l'authenticité et la fidélité. Authenticité des origines, tous étant issus de la noblesse d'épée, la seule qui mérite le terme de noblesse, et nul ne s'étant mésallié, pas plus que ses ancêtres, avec quelque riche héritière du négoce ou de l'acier. Fidélité à une caste que 2 siècles marchands avaient écarté du pouvoir, en apparence seulement, et dont portait la marque chaque geste, chaque parole, chaque regard glané par un Georg Hubert délicieusement fasciné. À l'heure où les hommes étaient invités à se retirer dans le fumoir, tandis que leur compagne s'en allait bavarder au grand salon, leur hôte avait pris le colonel par le bras, tel un vieux camarade, et l'avait prié de bien vouloir lui accorder quelques instants. L'entraînant dans le bureau du premier étage, que Hubert devine réservé aux affaires personnelles, donc à ses intimes, il lui avait proposé un ample fauteuil club. Les deux hommes étaient seuls. Quelques minutes plus tard, une fois savourés les premières bouffées de leur corona, délicatement poivrée, le comte avait délaissé la langue de Molière pour celle de Goethe. Selon toute vraisemblance, on allait entrer dans le vif du sujet. « Ce siècle avait 2 ans, lorsque je vis le jour, » commença le banquier. Nous nous sommes donc fréquentés, lui et moi, durant 90 ans et quelques. Au cours de ces années, grâce aux 3 bonnes fées que me furent la naissance, la profession et la nationalité, j'ai vu s'ouvrir à moi certaines des avenues les plus larges et les ruelles les plus obscures qui constituent ce que communément on appelle l'histoire. Au passage des ruelles obscures, la prunelle de l'ancien espion s'est faite attentive. Être banquier, poursuivait son hôte avec une emphase teintée d'ironie, c'est recueillir le secret comme le prêtre catholique recueille les confessions. C'est en recevoir, non pas de pauvres gens, mais de tout ce que le monde compte de possédants. Dans les années houleuses d'un siècle qui en fut riche, c'est ce qui m'a permis d'être souvent le témoin, et quelquefois l'acteur, de bien des événements que les livres ne diront jamais. Comme s'il voulait susciter la curiosité de son interlocuteur, Gottfried von Adler s'était interrompu. Perdu dans la contemplation des volutes de fumée, il semblait suivre des yeux autant de vieux fantômes. Enfin, dans un soupir, il avait repris. « Les secrets ne vous font pas peur, n'est-ce pas, colonel? Je dirais même qu'ils vous passionnent. Je me trompe ?» Puis, sans attendre la réponse. « Vous n'êtes pas sans en détenir un certain nombre, je crois, y compris sur moi-même. » Le colonel opinait, s'enfonçant dans le fauteuil qui, à présent, l'absorbait tout entier. « Une seule pensée m'habite en ce moment, un désir plutôt. Qu'une personne au moins, ne serait-ce qu'une seule, sache que je n'ai pas failli. » Que l'honneur des von Adler n'a jamais été souillé au cours de ces années sombres. Il n'avait pas précisé lesquelles, mais Hubert avait compris. Il connaissait les bruits qui couraient sur la vie passée du vieil aristocrate, ses amitiés, ses affaires, et supposait ces rumeurs truffées d'erreurs, de malveillance et d'envie. Il savait aussi qu'aucun homme n'abandonne de bon cœur sa réputation au dénigrement. Oui, les années sombres, poursuivait le vieil homme, que vint éclairer une flamme dont nous ne soupçonnons pas combien elle se révélerait impure. Il faut avoir appartenu à ma génération pour se représenter l'espoir que constituait, à l'aube des années 20, l'inspiration généreuse à la fois nationale et socialiste que portaient les anciens combattants, déçus par les tractations souterraines des politiciens. Pour l'Allemagne vaincue, c'était la promesse d'un monde meilleur, débarrassé de tout ce qui contrariait sa régénération, son redressement, le retour à sa gloire. Où est-il en venir, songeait le colonel? Von Adler n'avait pas fait la guerre, et si germanophile fut-il, il ne pouvait professer des idées d'une doctrine condamnée sans appel à Nuremberg. J'ai eu la chance et la malchance de côtoyer des hommes, aujourd'hui et à jamais condamnés, enchaînait justement le vieil aristocrate. Pour la plupart, ce ne fut que justice, et je n'ai rien à redire. Sans doute attendait-il que son interlocuteur le poussât quelque peu, mais le militaire était demeuré silencieux. Si le comte voulait se confier, il y viendrait de lui-même. Il ne se trompait pas. « Comme je vous l'ai dit, je ne fus qu'un témoin, » avait repris le comte, « mais un témoin privilégié, qui détient sur cette période des documents que rêveraient de posséder bien des historiens, sans parler des politiques. « Entendons-nous bien, » avait-il précisé, comme passait sur le visage d'Hubert l'ombre d'une grimace. « Je ne suis ni antisémite, mot qui ne veut rien dire, ni judéophobe, terme plus adéquat. Je me moque éperdument de ces histoires de race. Un détail parmi d'autres attesterait d'ailleurs de ma sincérité. Les 57 passeports helvétiques que je fournis en 1941 au rabbin de Zurich. Je me suis longtemps interrogé sur les âges qui en fut fait. Peut-être en savez-vous davantage. » L'ancien chef de la dite police n'avait pas eu à répliquer. Déjà son hôte passait à autre chose. « Bien qu'une génération nous sépare, colonel, je ne doute pas que, tout comme moi, vous n'ayez que mépris pour les simplifications, les jugements hâtifs et les slogans faciles auxquels l'époque actuelle réduit toute pensée. Pas plus que je ne doute de votre probité ni de votre patriotisme. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai songé à vous. » On y arrivait. Ces documents, ces pièces que j'évoquais tout à l'heure, je ne peux me résoudre à les détruire. Pas plus que je ne peux prendre le risque de les voir tomber en n'importe quelle main. C'est pourquoi j'ai pensé faire de l'homme de pouvoir occulte que vous fûtes l'exécuteur testamentaire de ma vie cachée. J'aimerais pouvoir y réfléchir encore, mais je ne pourrais le faire, bien sûr, si je vous imaginais refuser cette tâche. » Le vieil homme en avait fini. D'un geste lame et clair, il invitait maintenant l'officier à répondre. « Ce que vous me demandez est inhabituel, l'exécution d'un devoir de mémoire en quelque sorte, et en deçà comme au-delà, l'invitation à porter un jugement sur une période et des personnages qui ne me sont connus qu'indirectement. Et dans quel contexte, dans quelles conditions? De votre vie, je sais deux ou trois choses grâce à un homme qu'à des années de distance nous avons connu tous les deux. Je veux parler de Roger Masson. Je précise tout de suite n'avoir jamais ouvert le dossier qui vous est consacré au sein de nos services. Non que je me désintéresse de votre parcours, ou redoute d'y découvrir des horreurs, mais parce que, n'étant pas historien, ni ne songeant à le devenir, je n'ai ressuscité les faits ou les vies consignées dans nos archives que s'ils avaient un lien direct avec mon travail. » Sans quitter du regard le vieil aristocrate resté de marbre, Georg Hubert avait marqué une pause avant de reprendre. « Roger Masson, pour en revenir à lui, avait pour vous de l'estime, même s'il regrettait de n'avoir pas percé tous les secrets de votre personnalité. Il m'a donné le sentiment que l'intérêt qu'il vous portait reposait sur de solides fondations. J'ajoute qu'à votre sujet, il eut un jour ce commentaire sibyllin, auquel, sur le moment, je n'ai pas prêté attention. En tout cas, il a eu de la chance. » « C'est vrai, » murmurait le vieil homme tandis que le colonel poursuivait. « C'est cette part de chance qui m'intrigue et m'inquiète. » Le comte, qui à cette remarque s'était enfoncé ostensiblement dans le creux de son fauteuil, lui avait lancé un regard interrogatif. « Donc ?»« Donc, vous proposez de me confier une documentation inédite sur la période la plus passionnante du siècle et l'une des plus riches de notre propre pays, la Suisse. En contrepartie, vous me demandez de me faire le juge, voire même le censeur, de ces archives. » Un historien accepterait avec enthousiasme et reconnaissance. Un officier de renseignement est nécessairement plus prudent. C'est bien pour cela que je m'adresse à vous. Est-ce à dire que vous déclinez l'offre? Je n'accepte ni ne refuse. Disons que pour l'instant, et comme vous d'ailleurs, je souhaite y réfléchir. Voilà qui vous honore, colonel, et ne me déçoit pas. Alors, convenons d'une chose. Celle de nous revoir à l'initiative du premier de nous deux, qui aura pris sa décision. J'espère juste que la maladie m'en laissera le temps. Sans quoi, je serai seul en mesure de vous faire un cadeau, qu'il vous sera loisible, bien sûr, de refuser. Cela me paraît honnête. Permettez-moi d'ajouter un engagement de ma part, dans le double cas où ce cadeau me serait fait et où je l'accepterai. Si son contenu devait m'apparaître susceptible de susciter soit la calomnie, soit la simple controverse, j'aurais à cœur de ne le livrer à personne, je dis bien personne. J'ai bien trop de respect, et pour votre mémoire et pour votre nom, lequel appartient à notre patrimoine, pour agir autrement. » Un hochement de tête appuyé avait seul exprimé le remerciement du vieil aristocrate. Le sujet était clos. L'officier ignorait qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de l'aborder de nouveau. « C'était aussi bien, songe-t-il aujourd'hui, le contenu de la valise se suffira à lui-même. » Georg Hubert dépose la précieuse malle au milieu de son salon. « Il n'en a pas la clé, une clé à tige pleine que le notaire lui a dit ne pas avoir en sa possession. Le colonel est tenté de penser que le petit homme veut ainsi se défendre contre tout soupçon d'indiscrétion. Il hausse les épaules. Que lui importe la clé? Venir à bout de la Bénarde lui est un jeu d'enfant. Tapissée d'une toile de coton bleu pâle, la valise est bourrée de dossiers étiquetés, correspondances, journaux et notes. Il les range sur le tapis jusqu'à découvrir tout au fond une demi-douzaine de registres empilés et soigneusement alignés en rang juxtaposé. Sur chaque couverture, des étiquettes, des dates. La première porte l'indication « juin 1950 », la dernière « novembre 1923 ». Il connaît suffisamment l'histoire allemande pour faire remonter à cet hiver 1923 le début de la carrière d'Adolf Hitler. Novembre, date du putsch de Munich par lequel le dirigeant du Parti national-socialiste tente de prendre le pouvoir en Bavière aux côtés du général Ludendorff, ce qui lui vaut 14 mois de prison. C'est aussi le moment où il rédige Mein Kampf avant de s'imposer au sein du NSDAP, d'affirmer son image et d'effectuer ses premières apparitions publiques. C'est malheureusement aussi le commencement de cette terrible tragédie qui allait s'achever en apocalypse wagnérienne. Huber n'était pas de ce monde lorsque s'est mise en marche l'histoire d'une Allemagne nouvelle qui n'était plus celle des Hohenzollern. Il sait cependant comment tout débutera par la course désordonnée des spartakistes de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, pour marcher ensuite au pas cadencé des anciens combattants du Kampfbund, la ligue de combat contre le bolchevisme. Secoué par une défaite qualifiée de trahison par ceux qu'aurait brisé tout aveu d'impuissance, la grande nation irait alors s'offrir aux pires extrémistes. Cette radicalisation avait ruiné les illusions des démocrates qui n'avaient pu appeler à se pencher sur le berceau de leur république qu'une fée peu attrayante puisqu'elle portait le nom de capitulation. D'où novembre 1923 et les années suivantes de sinistre mémoire. Curieux choix tout de même qu'une référence aussi sulfureuse pour commencer à raconter sa vie, songe le policier. Il secoue la tête, feuillette le cahier, s'arrête au dernier, celui de juin 1950. La date, là encore, ne manque pas de sens. L'histoire ne s'y est certes pas arrêtée, mais elle marque cependant une étape importante. Si le vieil aristocrate a choisi de mettre un terme à son propre récit au premier jour de la guerre de Corée, suppute l'ex-policier, ce peut être parce qu'il considérait que ce premier embrassement sanglant entre l'Ouest capitaliste et l'Est communiste marquait le début d'une ère nouvelle, celle d'une guerre froide soudain devenue chaude, qui ouvrait, du même coup, à sa chère Allemagne, la voie bordée d'ornières du pardon, voire de la réhabilitation. Le Valhalla fermé, une bonne fois pour toutes, et si Dieu renvoyait à des jours plus glorieux, c'est à la bourgeoisie catholique qui reviendrait désormais de donner un nouveau visage à la Confédération du Rhin, augmentée de la Bavière et de la Basse-Saxe. Beethoven plutôt que Wagner, Goethe mieux que Nietzsche. En 1950, la Germanie avait vécu. Ainsi, toute sa vie, comme ses précieux secrets, le comte von Adler les aura fait tourner autour de l'Allemagne. À l'instar du banquier, Georg Huber voue à ses terres, à la fois si voisines et si étrangères, les sentiments complexes. Il a chéri comme une amie intime, tout en l'aménageant comme une maîtresse exigeante. C'est pourquoi, à cette heure, il hésite soudain devant les inquiétants registres. Il redoute qu'en découvrir les mots ne libèrent du même coup bien des masques hideux, ceux d'une idéologie haineuse et fanatique qui a effacé pour longtemps de la mémoire collective les elfes et l'énix, le romantisme et le Naturgefühl qui, pour lui, concitaient la seule Allemagne véritable. Il craint la trahison de cette nation-là, frémit à la pensée des trônes de tueurs qui risquent de surgir. Faut-il, en cette fin de siècle, remuer tant de fanges? Ne vaudrait-il pas mieux accorder à ce peuple ami le seul pardon qui vaille, celui de l'oubli? Il se sent vieux soudain, la fatigue l'empoigne. Son corps se rappelle à lui, comme perclus des coups qu'il n'a pas reçus, mais que d'autres ont subis. Là, où l'avait porté toute la nuit, tout le jour, enthousiasme et jubilation, voilà qu'il ne goûte plus qu'une étrange amertume. Quelque chose comme le sentiment d'impuissance que dure connaître en ces noires années, à la fois sa patrie et ses compatriotes les plus lucides.